Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les électeurs ont parlé, on connaît aujourd'hui la composition du Parlement européen pour les 5 prochaines années. Il y a évidemment quelques changements, progression de l'extrême droite et des souverainistes, progression également des écologistes et des libéraux, recul des 2 grands groupes traditionnels, Parti populaire européen de droite et Parti socialiste européen de gauche, ce qui signifie que le duopole de ces 2 partis ne sera sans doute pas, et même sûrement pas, suffisant pour former une majorité. Les équilibres vont changer, il va y avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur les nominations aux postes clés. Quel chemin pour l'Europe après ces élections? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Emiliano Grossman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, rattaché au Centre d'études européennes et de politique comparée. Et Vivien Pertuso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, ancien responsable du bureau IFRI à Bruxelles de 2011 à 2017 et spécialiste des questions européennes. On a beaucoup parlé des résultats dans chacun des pays qui ont participé au scrutin, à juste titre, et on va peut-être en reparler au cours de cette émission. Mais d'abord, d'un point de vue global, européen, comment est-ce que vous analysez les résultats de ces élections, Emiliano Grossman?
Bon, il y a plusieurs choses, dans certaines que vous avez déjà mentionnées. Donc il y a effectivement la poussée attendue des partis populistes, il y a la poussée moins attendue mais tout aussi forte des partis écologistes, et il y a la fin de cette conjonction des centres, de ce co-gouvernement par le Parti Populaire Européen et le Parti Socialiste Européen qui s'annonce et qui va les obliger à entamer des négociations, notamment je pense avec les libéraux et les verts, ce sera les partenaires les plus naturels. À cela il faut ajouter que quand même historiquement dans le Parlement Européen, c'est un Parlement plus de régime parlementaire, c'est-à-dire où on a plus tendance à coopérer, à trouver des solutions communes plutôt qu'à s'affronter pour le plaisir de s'affronter comme on le fait parfois dans le Parlement français par exemple.
Ça veut dire que effectivement PSE et PPE travaillent ensemble main dans la main au Parlement européen. Vivien Pertuso, comment vous analysez ces résultats? Qu'est-ce que vous voulez ajouter là-dessus?
Alors il y a un élément qui est quand même assez important, je pense, à signaler, c'est la hausse de la participation pour ces élections, surtout dans certains pays d'Europe centrale et orientale où on a eu des hausses qui vont de 10 à 20 points supplémentaires. C'est quand même assez impressionnant par rapport à 2014, où déjà en 2014 on avait eu des discours assez catastrophistes sur l'état de l'Union européenne et ça n'avait pas généré un enthousiasme particulier pendant les élections, alors que cette fois-ci on a vu quand même une prise de position beaucoup plus forte des électeurs, et ça c'est quand même quelque chose d'assez notable.
La prochaine étape, et vous avez commencé à en parler, Emiliano Grossman, c'est de trouver une gouvernance. Comment est-ce que vous la voyez? Alors je vais vous proposer plusieurs options, une majorité stable, une coalition ou des majorités de circonstances. Comment ça peut se passer?
Écoutez, on découvre un nouveau monde là. Donc moi je crois qu'il y a des pays comme le Danemark par exemple où le gouvernement gouverne quasiment toujours en minorité et ça marche très bien. C'est pas un pays particulièrement mal gouverné, bien au contraire. Donc je pense que ça reste à inventer. Dans l'immédiat, je crois pas que le Parti Vert par exemple ou l'ALDE, le Parti Libéral, vont s'engager avec un chèque de blanc-seing, parce que ils ont pas intérêt à le faire. Ils vont négocier, je pense, dossier par dossier, et voir s'il y a matière à arriver à une espèce d'accord de coalition. Ça s'est jamais vu tel quel. Donc je pense que là, on est vraiment sur du terrain nouveau. C'est très difficile à prédire dans l'immédiat comment ça va se passer.
Vivien Pertuso, est-ce que le Parlement européen a besoin d'une coalition pour fonctionner, ou est-ce que même habituellement, on négocie de la main à la main sur chaque dossier?
Un peu les deux, mais c'est vrai qu'effectivement, comme Emiliano Grossman le disait, le Parlement européen se caractérise quand même par le consensus avant tout, et ça c'est quelque chose qui ne devrait pas changer. Donc a priori le PPE et le PSE devraient continuer à collaborer ensemble, et ensuite en fait on a 2 partis qui se présentent un peu comme le faiseur de roi. Un peu comme les kingmakers. Donc c'est ça qui risque d'être assez compliqué, c'est que à chaque fois les deux vont se mettre en position d'être attirants pour la grande coalition PPE-PSE, donc ALDE d'un côté, donc les centristes, et effectivement le parti écologiste, ce qui est assez nouveau. Ça devrait pas fondamentalement changer la dynamique au Parlement européen, puisque de toute manière ce qui est toujours recherché, c'est le consensus. Sans consensus au Parlement européen, faut bien le comprendre, on est assez invisible autrement.
Il y a est-ce qu'il y a des alliés naturels, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des choses un petit peu surprenantes? Emiliano Grossman, vous avez évidemment cité PPE, PSE, et à tour de rôle ou pas d'ailleurs, les Verts et les Libéraux. Est-ce que ça vous paraît être une majorité qui peut être stable?
Je pense plus au dossier par dossier. Ouais, je pense qu'on parlera plus de questions environnementales parce que ça sera la monnaie de négociation qu'utilisera le Parti Vert européen pour obtenir son appui à d'autres initiatives. Je pense qu'ce sera très intéressant aussi de regarder les dossiers chauds entre guillemets, l'immigration, certaines réglementations dont les négociations sont en cours, qui peut-être ça va remettre des choses à plat. Donc je pense que les mois qui viennent vont définir un nouveau mode de travail et ça sera très intéressant parce que je pense que pour l'instant personne n'est vraiment bien préparé à cela.
Est-ce qu'on peut imaginer, Vivien Pertuso, et vous allez répondre également à cette question, Emiliano Grossmann, un contrat de gouvernement à l'allemande? C'est-à-dire que quand on parle d'un contrat de gouvernement à l'allemande, c'est ce qui s'est passé et qui a été négocié pendant des semaines et des mois entre actuellement la CDU en Allemagne et le SPD, la grande coalition. C'est un vrai contrat hein, de plusieurs centaines de pages où on dit on va faire ci, on va faire ça et on se met d'accord sur les choses. Est-ce que ça c'est possible, transposable au niveau du Parlement de Strasbourg, Vivien Pertuso?
J'y crois assez peu. J'y crois assez peu pour deux raisons. La première, c'est que ça ne s'est jamais fait. Au Parlement européen, les initiatives, les innovations, c'est quand même assez rare d'un point de vue institutionnel. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'après, faut pas oublier que ce sont des groupes politiques constitués de petits groupes eux-mêmes nationaux. Et donc, en fait, au sein du PSE, on a des minorités qui sont très fortes. Le Parti Socialiste Français, par exemple, alors certes, très minoritaire désormais au sein du PSE, a souvent été en décalage par rapport à la ligne du PSE. Au sein du PPE, reste à savoir qui va rester au sein du PPE. On peut imaginer qu'avec Viktor Orban, ça risque d'être compliqué de trouver un contrat de gouvernement rien qu'au sein du PPE. Donc trouver un accord entre ces deux grands groupes politiques et avec un autre groupe politique, ça paraît quand même assez peu probable.
Vous en pensez quoi, Emiliano Grossmann ?
Je suis assez d'accord à une chose près, c'est que en absence d'un accord et d'une majorité stable, finalement le gagnant sera le Conseil. Donc ça, il faut aussi partir de l'économie concrète des institutions européennes. Le Conseil, c'est les chefs de gouvernement, d'État et de gouvernement.
Alors on va juste rappeler comment ça fonctionne. Il y a un trilogue en général, hein, initiative à la Commission européenne, décision du Conseil et approbation du Parlement. Et toutes ces trois institutions discutent pour obtenir des textes en commun.
Absolument. Donc du coup, un Parlement faible et désuni laisserait l'initiative au Conseil. Donc je pense que ça peut fonctionner quand même quelque part comme une espèce d'élément motivateur pour peut-être trouver une alliance. Mais là où ce qui est vrai, c'est que d'abord il va falloir résoudre les tensions internes à chacun des grands groupes. Et le cas du groupe de Viktor Orban, donc qui est, je le rappelle, devenu a gagné 54% des voix en Hongrie, donc qui est très très bien installé, qui a un discours très fortement anti-européen. Donc là, il reste à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe. Il y a les quelques conservateurs britanniques aussi qui restent encore quelques mois en tout cas. Donc il y a un tas d'inconnus encore à l'intérieur du groupe qui vont peut-être aussi co-déterminer les négociations à venir.
Alors on va justement parler de ce PPE, le Parti Populaire Européen. C'est le premier parti du Parlement. Ce sont les partis de droite conservatrice modérée, chrétien-démocrate à travers l'Europe, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il est donc particulièrement affaibli par son recul, parce qu'il a quand même perdu une trentaine de sièges, et par le triomphe de Viktor Orban dans son pays. On se rappelle que Viktor Orban, son parti, le Fidesz, est membre du PPE, mais qu'il est suspendu et qu'il va peut-être pas laisser passer l'affront, Viktor Orban, Vivien Pertuso.
C'est sûr que, honnêtement, pour le PPE aujourd'hui, Viktor Orban est une grosse épine dans le pied. Enfin, faut quand même pas, on peut cacher tout ce qu'on veut, on peut arrondir les angles, etc. C'est un vrai problème pour le PPE aujourd'hui. Un PPE qui n'est pas uni est un PPE qui est faible. Et c'est vrai qu'avec le Fidesz qui aujourd'hui peut dire, moi je décide de sortir du PPE, ce serait une énorme défaite pour le PPE et un affaiblissement très fort. Ça paraît peu probable, mais on ne sait jamais. Honnêtement, les tractations au niveau du Parlement européen aujourd'hui ne permettent pas vraiment de savoir ce qui va advenir. Mais ça pourrait, c'est vraiment une grosse épine dans le pied du PPE, cette situation avec le Fidesz. Et effectivement, comme Emiliano Grossmann l'a dit, le fait que Viktor Orban s'est fortement imposé dans son pays.
Viktor Orban, c'est la moitié des députés, des eurodéputés hongrois. Comme je le disais, le PPE est déjà affaibli. Si jamais Viktor Orban devait partir, ce serait vraiment, là, pour le coup, un séisme politique au Parlement, Grossmann.
Un séisme, on parle quand même, j'ai plus exactement en tête le nombre de sièges pour la Hongrie, mais c'est 8 à 10 sièges, un truc comme ça, donc c'est pas non plus la mer à boire.
Ça resterait le plus gros groupe, c'est ce que...
Ça reste le plus gros groupe quand même, donc ça change pas fondamentalement la situation dans laquelle il est. Il n'a pas de majorité, il n'a pas de majorité avec les socialistes, il faut qu'il trouve d'autres alliés, donc ça change pas. Et quelque part, il est aussi... possible que ça les oblige à trouver une ligne politique plus claire, parce que quelque part Viktor Orban très clairement n'est pas dans la ligne politique du PPE. Il, à mon avis, va tout faire pour rester dedans tout en étant dehors, parce que c'est la meilleure des positions, les Anglais l'ont montré pendant très longtemps, et donc pour gêner le PPE dans son fonctionnement interne, essayer d'imposer les quelques éléments qui l'intéressent tout en empêchant le parti de fonctionner correctement. Donc quelque part pour le PPE, il y a un intérêt aussi à s'en débarrasser, donc je pense que c'est donc à moyen terme, c'est plus intéressant et plus fort pour le parti sera plus fort sans lui.
Les divisions entre nationalistes et populistes sont-elles surmontables? Il y a plusieurs points de fracture. Vivien Pertuso, l'influence russe, hein, et c'est surtout des partis populistes de l'Ouest qui sont assez favorable, voire même peut-être officiellement financé par des banques russes. Et puis à l'est, évidemment, pour des raisons historiques, on n'a pas tellement envie de se lier à la Russie. Est-ce que ces nationalistes qui sont actuellement éclatés en trois groupes ont les moyens de peser, voire de bloquer le Parlement européen?
Alors, si l'expérience des deux dernières législatures peut nous apprendre quelque chose, la réponse est non. Après, si on regarde un petit peu la précédente législature, en fait, ce que ces partis cherchent à faire, c'est surtout d'avoir un groupe. Pour une raison simple, c'est qu'un groupe est financé, permet d'avoir des postes, permet
d'être...
effectivement, le fait d'avoir un groupe au Parlement européen, ça donne accès à du financement, de la visibilité, une forme de crédibilité, etc. Et c'est ça qui est principalement recherché. Et donc, et je pense qu'il y aura, alors je sais pas s'il y aura un seul groupe, ça me paraît quand même effectivement très compliqué, mais dans tous les cas de figure, il y aura peut-être au moins deux groupes. Ces groupes-là auront accès à du financement, auront accès probablement à des postes clés, etc. Et tout ça est utile pour eux. Ils le prendront, même s'ils sont en désaccord sur de nombreux sujets.
Emiliano Grossman, on peut, au nom de l'influence et de la grosseur du groupe, on peut mettre un mouchoir sur ces désaccords?
C'est ce qu'ils prétendent. Moi, je suis assez sceptique aussi parce que quand on regarde simplement leur assiduité au Parlement, c'est-à-dire les députés FN n'y vont pas tout simplement. Donc, du coup, fondamentalement, quand on n'y est pas, on ne peut pas avoir une influence. Et d'ailleurs, les députés français n'ont pas un très bon bilan en matière d'assiduité. Et le FN est parmi les pires du Parlement européen. Donc, quand on n'est pas là, on n'a pas d'influence.
L'autre grande question qui se pose désormais, c'est celle des nominations au poste clé de la gouvernance de l'Union européenne, présidence du Parlement, du Conseil européen, de la Commission, composition de la Commission, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité. Tout ça va être renouvelé dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et on va en parler dès demain lors du sommet européen extraordinaire de Bruxelles. La négociation s'annonce complexe pour vous, Vivien Pertuso?
Alors oui, comme toujours. Enfin là, pour le coup, c'est vraiment ça se fait. Si pour certains l'Union européenne paraît comme une boîte noire, je pense que les négociations pour les postes clés le sont encore davantage. Généralement, ce qui ressort, ce sont des intérêts nationaux qui sont poussés au niveau européen. On peut penser par exemple au commissaire à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un Irlandais. Pourquoi les Irlandais ont poussé pour avoir ce poste? Pour beaucoup de postes, en fait, ce sont des intérêts nationaux qui sont mis en avant au niveau européen. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour la première fois depuis un certain nombre de législature, on se retrouve dans une situation où les principaux candidats pour la présidence de la Commission ne sont pas des anciens chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est nouveau, en fait, puisque Manfred Weber pour le PPE n'est pas un ancien chef de gouvernement, idem pour Frans Timmermans, et donc on se retrouve dans une situation où les deux plus gros partis politiques ont mis en avant des candidats qui ne sont pas des chefs d'État et de gouvernement, alors même qu'avait été plus ou moins instaurée l'idée que le président de la Commission européenne doit être un ancien chef d'État et de gouvernement.
Le système que vous évoquez, des Spitzenkandidaten, est-ce qu'il est affaibli par le recul des deux grands partis européens, Emiliano Grossman ?
Oui, je pense. Et d'ailleurs, il y a eu quelques signes avant-coureurs quand même de certains chefs d'État et de gouvernement qui ont déjà signalé qu'ils ne se sentent pas forcément liés par ce système des candidats en Spitzenkandidaten, les candidats en chef quelque part, instauré seulement en 2014. Donc c'est quand même un système intéressant. Donc ça a assez bien marché en 2014. Mais à partir du moment où il n'y a pas de majorité claire, que peut-être les négociations entre les partis s'avéreront assez difficiles, il se peut tout à fait que le Conseil européen ne se sente pas du tout lié par les résultats des élections pour la nomination du président de la Commission. Oui. Qui est le poste clé le plus important quand même.
L'instabilité ou le fractionnement du Parlement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut donner la main au Conseil européen et donc aux négociations entre chefs d'État, Vivien Pertuso.
Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gouvernements qui ont intérêt à faire ça. On peut penser à la Hongrie, on peut penser à l'Italie, ils ont intérêt à affaiblir le Parlement. Plus le Parlement est affaibli, plus le Conseil est fort. Et c'est vrai que plus le Conseil est fort, plus les gouvernements nationaux décident. Donc c'est sûr qu'il y a des États, il y a des gouvernements en place aujourd'hui qui ont intérêt à ce que le Parlement soit faible. Ça, c'est certain. Après, il faut pas non plus se leurrer, le Parlement européen, les chefs d'État et de gouvernement, souvent, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, ne cherchent pas non plus à faire en sorte que le Parlement européen soit le plus fort. Faut quand même pas non plus exagérer. En dépit de tout ce qu'ils peuvent dire, il y a quand même ce phénomène qui joue.
Vous avez parlé des intérêts nationaux. Est-ce qu'on va avoir droit à une illustration des divisions qui sont apparues au grand jour ces derniers mois, et notamment entre la France et l'Allemagne, Emiliano Grossman ?
Je pense que...
Division assumée, hein, maintenant, au grand jour.
Oui, je pense que cette relation aujourd'hui est assez compliquée. Je pense aussi le fait que, finalement, tout en faisant campagne, finalement, l'enjeu européen n'a pas été très présent ces derniers mois, à cause de la crise des gilets jaunes, à cause de d'autres éléments contextuels, et que finalement l'agenda européen d'Emmanuel Macron, qu'il avait mis en avant pendant sa campagne présidentielle, a été très peu visible finalement ces derniers mois. Donc ce qui a certainement fait que cet enjeu-là n'est pas tout en haut des priorités dans les relations entre les deux pays. Donc ça c'est plus les désaccords. Je pense que ça peut effectivement créer des problèmes supplémentaires dans les négociations qui viennent, parce que si ces deux pays-là ne s'arrangent pas, si au Parlement on n'a pas de majorité claire, je pense que là on est dans un degré d'incertitude inconnu jusque-là.
Ça va poser problème, ces divisions, Vivien Pertuso, pour vous ?
Ah oui. Très probablement. Enfin, ça peut jouer à tous les niveaux. C'est vrai que ça joue déjà sur certains dossiers politiques. Ça peut effectivement jouer au niveau des nominations. Après, c'est parce que là, on peut penser à chaque pays voudra mettre en avant ses alliés, etc., etc. Honnêtement, c'est un calcul à tellement de bandes que c'est très très compliqué à anticiper.
Le cas particulier de l'Allemagne, les mauvais résultats de la grande coalition hier affaiblissent-ils la position allemande de soutien à Manfred Weber, selon vous, Emiliano Grossman?
Déjà, si le PPE avait eu un grand résultat, donc était resté un groupe pouvant atteindre une majorité avec un seul autre partenaire, notamment le PSE, la question ne se poserait probablement pas. Mais déjà, le fait que ce soit un Allemand n'est pas forcément bien vécu par tout le monde. C'est le premier Allemand depuis les années 50, depuis Hallstein, Walter Hallstein, qui était un des tout premiers présidents de la Commission. Donc du coup, le fait que ce soit un Allemand, déjà, c'est pas très bien vécu. Donc le fait qu'il soit mal élu, entre guillemets, et que l'Allemagne ne soit pas actuellement un des leaders incontestés de l'Union européenne, que la CDU soit affaiblie, que Angela Merkel soit sur le départ, c'est un tas de facteurs qui clairement affaiblissent Manfred Weber aussi, qui est quand même le choix d'Angela Merkel, rappelons-le.
Vivien Pertuso, quelques mots là-dessus, en quelques secondes, qui nous reste d'ailleurs.
Non, et puis en plus, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'Angela Merkel s'est déjà positionnée en disant « je respecterai le processus du Spitzenkandidat ». Donc on verra si vraiment elle respectera le choix du Spitzenkandidat et donc le choix de Manfred Weber.
Merci beaucoup Vivien Pertuso, merci à vous également Emiliano Grossman d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.